Mobile de Banque Atlantique. L'appli mobile totalement gratuite vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Centrafrique où la Cour constitutionnelle a validé la loi relative à l'organisation des référendums. Du coup, le président Faustin Archange Touadéra va pouvoir consulter la population sur son projet de nouvelle constitution, un projet qui divise. D'ailleurs, ces derniers mois, les pros et les anti-réformes ont donné de la voix en organisant des manifestations. L'opposition qui dénonce une manœuvre du chef de l'État pour modifier essentiellement l'article qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. La Centrafrique a-t-elle besoin d'une nouvelle constitution? On en débat ce matin tous ensemble. Vous nous rejoignez, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours, vos réactions sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission ou le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer des questions sur ce procès très très suivi en Guinée. Le procès du massacre du 28 septembre 2009. Bonjour Lama Banque.
Bonjour M. Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs, particulièrement ceux de la Guinée.
Et ceux qui nous écoutent en ce moment même, à Conakry, dans la capitale où vous êtes. Lama Banque, quelles sont vos questions?
Bon, après plus d'un mois d'audition, Moussa Dadis Camara maintient sa version des faits. Il accuse Alpha Condé d'être derrière ce massacre. De quelles preuves dispose-t-il?
Et Moussa Dadis Camara qui se dit victime d'un complot, une version des faits qu'il martèle effectivement depuis le début du procès. Bonjour Mathias Reynal.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Conakry, vous suivez ce procès et hier encore, pour sa 14e comparution, le capitaine Camara a désigné son ministre de la Défense de l'époque, Sékou Ba Konaté, comme l'un des conspirateurs aux côtés de l'ancien président Alpha Condé.
Oui, à longueur d'interrogatoire, Dadis répète qu'il n'est pas responsable des tueries et qu'il sera acquitté à la fin du procès. Selon lui, le massacre faisait partie d'un complot qui visait à l'évincer du pouvoir. Il ne clame pas seulement son innocence donc, mais tente de renverser la vapeur. Lui, qui est inculpé pour complicité d'assassinat, de viol, de pillage, entre autres, veut apparaître comme une victime. Sékou Ba Konaté, alors ministre de la Défense, se serait allié à Alpha Condé et à Boubacar Diakité, son aide de camp, pour provoquer sa chute. Avec ce carnage au stade, il s'agissait de le rendre infréquentable, de, je cite Dadis, le salir devant la communauté internationale, devant les Guinéens, afin que Sékou Ba Konaté puisse organiser les élections et donner le pouvoir à qui il veut, et en l'occurrence, dans la théorie échafaudée par Dadis, de permettre à Alpha Condé de devenir président. Il ne dispose d'aucune preuve à proprement parler, mais avance un faisceau d'indices.
Alors justement, sur quel fait le capitaine Camara s'appuie-t-il pour faire tenir ce scénario?
Des faits sans lien apparent les uns avec les autres, mais qui dans l'esprit de Dadis font sens. Si Sékou Ba Konaté s'est rendu à Massinta, par exemple, le 28 septembre 2009, à plus de 700 km de Conakry, c'était pour se fabriquer, dit-il, un alibi. Avec Alpha Condé, il aurait été l'un des instigateurs de ces tueries. En tant que président du RPG, ce dernier participe à l'organisation du meeting de l'opposition, puis quitte le pays juste avant qu'il ait lieu pour Dadis. Cela démontre qu'Alpha Condé faisait partie de la conspiration. Il en a d'ailleurs été le principal bénéficiaire avec son élection en 2010. Une élection entachée d'irrégularités avance l'ancien chef d'État. Aboubacar Diakité, alias Toumba, aurait joué le rôle d'exécutant. Moussa Dadis Camara raconte que son aide de camp l'a convaincu de rester à son bureau le jour du massacre avant de se rendre secrètement au stade pour y assassiner les opposants.
Ouais, et puis pour étayer tout ça, la défense a produit devant le tribunal deux audios qui sont très commentés sur place.
Oui, deux enregistrements qui sont censés prouver la version de Dadis. Dans l'un d'eux, et Kiridi Bangoura, ancien secrétaire général à la présidence, sous Alpha Condé, qui parle du soutien décisif apporté par Sékou Ba Konaté à Alpha Condé lors de l'élection 2010. L'audio, en réalité, a fuité dès 2020. L'autre enregistrement n'a pas été authentifié. Les avocats de Dadis l'attribuent à l'homme politique Sidya Touré, qui était présent au stade le 28 septembre 2009. Dans l'audio, il s'interroge, semble séduit par la thèse du complot, mais en parle comme d'une simple théorie qui reste à confirmer.
Moussa Dadis Camara qui doit revenir à la barre ce matin, et d'ailleurs demain on lancera le débat sur la thèse du complot dont il se dit victime. Vous qui êtes sur place, qui suivez ce procès, dites-nous si vous êtes convaincu par la version des faits du capitaine Moussa Dadis Camara. Une dernière question là, ma banque.
Oui, ça me pousse à une dernière question. L'ancien président actuellement en Turquie pourrait-il être contraint de venir s'expliquer devant les juges?
Mathias Reynal, Alpha Condé, viendra-t-il s'expliquer devant la justice guinéenne concernant ce dossier?
Alors, il est mis en cause par le principal accusé. Il serait normal qu'Alpha Condé puisse venir en Guinée pour défendre tout au moins son honneur. Mais le retour de l'ancien président est une question éminemment politique. Après le coup d'État qu'il a écarté du pouvoir en 2021, il a passé plusieurs mois en résidence surveillée avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis et rejoindre finalement la Turquie au mois de mai. Entre-temps, une procédure a été lancée contre lui pour les crimes de sang commis par les forces de sécurité sous son régime. La justice a même commencé vendredi dernier les auditions des parents et des proches des victimes. Il est poursuivi pour assassinat, actes de torture et enlèvement notamment. Dans ce contexte, il paraît peu probable que l'ex-chef d'État accepte de rentrer de plein gré.
À suivre donc. Lama Banque, êtes-vous satisfait? A-t-on répondu à vos questions?
Très satisfait. Merci à vous et merci à vos millions d'auditeurs et merci à Mathias Reynal.
Mathias Reynal qui suit pour RFI ce procès avec notre deuxième correspondant sur place, Mukhtar Ba. Merci infiniment à tous les deux. Bonne journée à Conakry où il est 8h17. On va repasser au standard avec des questions qui nous arrivent de Kai. C'est au Mali. Adi nous écoute grâce à un VPN. Bonjour Adi.
Bonjour Monsieur Wang, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci de votre confiance. Quelles sont vos questions?
Alors Monsieur Wang, après le ministre chinois des Affaires étrangères, le tour de secrétaire d'État au Trésor, défecté sa tournée en Afrique. À cet effet, j'ai deux questions. La première, comment expliquer le timing des tournées africaines des deux ministres?
Oui, effectivement, ministre des Affaires étrangères chinois et la secrétaire américaine au Trésor. Bonjour, Fola Chadé Soulé.
Bonjour.
Vous êtes professeur en relations internationales, chercheur à l'Université d'Oxford et vous êtes actuellement professeur invité à l'Université du Ghana, spécialiste des relations Afrique-pays émergents. La secrétaire américaine au Trésor est arrivée mardi soir en Afrique du Sud. Elle est en tournée, hein, Sénégal, Zambie et puis Afrique du Sud. Il y a 10 jours à peine, c'était le ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu dans 5 pays, Éthiopie, Gabon, Angola, Bénin, Égypte. Êtes-vous surprise par la concomitance de ces visites?
Alors, le timing, il est en effet intéressant, mais je ne suis pas surprise. Il n'est pas étonnant, ce timing. Il faut savoir que c'est une tradition, déjà, pour les ministres des Affaires étrangères chinois, de débuter la nouvelle année calendaire par une tournée en Afrique. Et cette tradition, elle date de 33 ans, soit depuis 1990. Et comme vous l'avez évoqué, hein, cette année, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères a effectué ses tournées au Gabon, au Bénin, Angola, Égypte et Éthiopie. Et du côté des États-Unis, par contre, la tournée africaine de la secrétaire d'État au Trésor constitue cependant une nouveauté. Mais cette tournée est aussi une manière de prouver un renouveau de l'engagement des États-Unis en Afrique suite au sommet de décembre dernier et aussi suite à l'adoption d'une nouvelle stratégie Afrique qui entend désormais renforcer le rôle des États-Unis en Afrique à travers plusieurs initiatives, notamment économiques, qui mobilisent davantage le secteur privé américain, des offres de financement aussi plus diverses, notamment pour les PME. Et le timing de sa visite, juste après celui du ministre des Affaires étrangères chinois, est également un signe que les États-Unis entendent désormais rivaliser aussi avec la Chine sur le continent africain.
Mais Fola Chadé Soudé, avant de rivaliser face à la Chine, puisque c'est vrai que la Chine est très très présente sur le continent africain, il va falloir déjà que les Américains rattrapent leur retard, puisque sous Donald Trump, l'Afrique n'était pas du tout une priorité.
Exactement. La Chine est le premier partenaire commercial bilatéral extérieur de l'Afrique s'est beaucoup engagé dans des secteurs multiples, alors que le continent africain ne représente qu'une très faible part, hein, un très faible pourcentage du commerce extérieur des États-Unis, malgré des initiatives comme l'AGOA, par exemple. Et ça, ce n'était pas que sous Trump. Hein. Alors, sous Trump, ce n'était clairement pas une priorité, le continent, mais sous les gouvernements précédents, il n'y avait pas non plus une dynamique beaucoup plus forte. C'est sous ce gouvernement de Biden, sous sa présidence, qu'il y a vraiment un renouveau, une nouvelle stratégie qui doit être mise en œuvre. Mais là encore, on attend de voir au-delà des paroles, hein, plus pratiquement quels seront
les actes posés par les États-Unis. En tout cas, il y a déjà, alors ça reste une parole pour l'instant, mais la confirmation que Joe Biden se rendra sur le continent africain en fin d'année, a déclaré Janette Yellen, la secrétaire d'État au Trésor. Folacha Dessoulé, Hadi a une autre question à vous poser.
La deuxième question est, quelles sont les différentes stratégies entre Américains et Chinois vis-à-vis du continent?
Américains et Chinois ont des approches différentes à l'égard du continent africain. Est-ce que vous pouvez nous les résumer en quelques mots?
Oui, alors les différences existent à plusieurs niveaux. Déjà, la politique africaine des États-Unis, elle s'est longtemps focalisée sur des questions liées à l'aide humanitaire, des projets liés à la gouvernance, la promotion des droits de l'homme et les questions sécuritaires aussi. Les États-Unis disposent de plusieurs bases et facilités militaires sur le continent. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le commerce et les investissements, notamment publics, ne représentait qu'une faible part dans la mise en œuvre de cette stratégie, parce que les pays africains étaient considérés comme trop risqués par les entreprises américaines. Et c'est tout le contraire de la stratégie chinoise, qui a vu le continent comme un espace d'opportunité pour y construire et financer des infrastructures, et comme des débouchés pour ses propres entreprises d'État, mais aussi des entreprises provinciales, des PME. Donc ils ont pris beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, l'engagement de la Chine va bien au-delà de cet engagement économique. Il est multisectoriel. On parle de sécurité, technologie, agriculture, environnement, médias, mais également plus loin, hein, le renforcement des relations politiques, notamment entre les partis politiques africains et le Parti communiste chinois. Donc la Chine est moins regardante aussi sur les questions de droits de l'homme. Et ce n'est pas une condition dans l'octroi de l'aide ou des financements chinois. Quant à la nouvelle stratégie américaine, elle est désormais plus large. Il est question d'un partenariat, un rapprochement, une coordination renforcée, hein, avec des institutions régionales comme l'Union africaine, mais également pas mal de projets pour lutter contre le changement climatique et des projets économiques prioritaires. Et donc cette nouvelle stratégie se démarque des précédentes parce qu'elle entend davantage prendre en compte les priorités africaines, mais dans une certaine mesure, elle se rapproche aussi de la stratégie chinoise par ce côté multisectoriel et multidimensionnel.
Voilà, donc les États-Unis et la Chine qui vont se livrer une bataille commerciale, diplomatique également sur le continent africain. Merci de votre analyse, Folacha Dessoulé. Hadi, on a répondu à vos questions.
Merci beaucoup, M. Wan, je suis très satisfait.
Eh bien, tant mieux. Et bonne journée à vous, Akai, et continuez, tant que vous le pouvez, à écouter RFI grâce à un VPN. Il est 9h23 ici à Paris, on va parler du Tchad avec Daniel, qui est à Douala. Oula, Daniel, bonjour. Oh, on a des bips, ça ne passe plus, me dit-on au casque. Alors, on va essayer de rappeler évidemment Daniel dans un instant qu'il y a des questions à nous poser après la décision prise vendredi par le gouvernement tchadien de lever la suspension des activités politiques des sept partis qui, rappelez-vous, avaient appelé à manifester le 20 octobre dernier pour dénoncer la prolongation de la transition. Et Daniel voulait savoir si, après cette décision du gouvernement, il était possible d'envisager le retour au pays de succès. C'est Masra. Bonjour Madjassra Anako.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et on salue Daniel évidemment qui, je l'espère, nous écoute à Douala. On n'arrive plus à le recontacter. Madjassra, vous êtes correspondant de RFI à N'Djamena. J'ai écouté attentivement évidemment notre antenne et dès vendredi soir, le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh affirmait que la levée de la suspension des activités politiques allait dans le sens de l'apaisement. Est-ce que ça peut inciter Succès Masra, qui est le principal opposant, qui est quand même accusé par les autorités d'être le responsable des violences du 20 octobre, de revenir au Tchad?
En fait, il faut comprendre que le communiqué du ministre de l'administration du territoire qui annonçait plutôt la fin de la suspension pour 3 mois de 7 partis politiques qui ont appelé à la marche ou aux manifestations du 20 octobre n'était qu'un point d'étape. Il annonçait qu'ils ont été suspendus pour 3 mois, la suspension est arrivée à terme. Mais à côté de ça, ils restent poursuivis, comme a dû le rappeler quelques jours plus tard le ministre de la Communication. Donc, c'est peut-être une décision pour aller dans le sens de l'apaisement, mais je ne pense pas que Succéma sera comme les autres, d'ailleurs, un leader qui ont dû quitter le pays à l'exception de Yaya Dillo, puisse pouvoir rentrer comme ça, parce qu'il reste poursuivi. Et pour rappel, hein, quelques jours, par exemple, après le 20 octobre, il a fallu des négociations politiques dans lesquelles des chanceleries se sont mêlées pour que les autorités lèvent la barrière, parce que tout le monde a vu Succéma Traoré quitter le pays. Oui. Et là, c'est la conséquence de discussions et de négociations politiques. Oui. Donc, pour que ces leaders puissent rentrer dans des conditions de sécurité, je pense que il faudra encore d'autres négociations et on me signale ici et là qu'en effet ça parle, mais on n'en a pas encore, on n'a pas encore de résultats, oui. On n'a pas des informations précises.
En tout cas, dès vendredi soir sur RFI, Succéma Sera a déclaré que la levée de la suspension de son parti, comme celle des six autres, était un non-événement. Daniel, on vous a retrouvé, vous avez encore une dernière question, je crois. Ah bah alors, décidément, il y a quelque chose qui nous échappe. Hors antenne, on entend très bien Daniel, et dès qu'il passe, vous voyez, ça résonne, sa voix est méconnaissable. Je me fais donc de nouveau son porte-parole. Madjassra, Daniel, vous savez évidemment que ces partis d'opposition font toujours l'objet d'accusations de troubles à l'ordre public. Est-ce que cette procédure judiciaire a une incidence justement sur la reprise des activités politiques ?
Ah, pour sûr, hein, il y aura une incidence parce que depuis vendredi, à part les déclarations que les uns les autres ont dit faire, il n'y a pas eu d'activité politique visible. Et un parti sans son leader sur le terrain, je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. En tout cas, jusqu'en ce moment, les partis politiques qui ont été concernés ou les organisations qui ont été concernées n'ont pas fait de manifestation publique. Et rappelons encore que leur leader étant poursuivi, il risque à tout moment d'être arrêté, si jamais, par exemple, il venait à rentrer ou à se montrer en public.
Oui. Effectivement, on aura certainement l'occasion de reparler justement de la situation politique au Tchad vendredi dans la Libre Antenne. En début de semaine, vous avez réagi justement à la situation 3 mois après ce jeudi noir, 3 mois après le 20 octobre, les violences, la répression. Et effectivement, on peut débattre et continuer à débattre vendredi dans la Libre Antenne de comment désormais les partis politiques, c'est cette partie de l'opposition, pour ne pas les citer, vont pouvoir reprendre leurs activités, de quelle façon, leur marge de manœuvre, d'autant que le communiqué hein, des autorités est clair, autorisation de reprise des activités, mais en respectant strictement la législation en vigueur. Bon, Daniel, j'espère que vous avez pu entendre, malgré les problèmes de téléphone, les explications de notre correspondant, Madjassra Nako. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne journée. On avait Ibrahim qui patientait au standard depuis le début de cette émission, mais voilà, je prends l'engagement, Ibrahim, de vous rappeler demain matin et vous pourrez bien évidemment poser vos questions qui seront toujours d'actualité. N'oubliez pas, dans 10 minutes, notre débat du jour, on va parler de la Centrafrique avec cette possibilité qui est désormais validée par la Cour constitutionnelle, la possibilité pour le président Faustin Archange Touadéra d'organiser un référendum constitutionnel. C'est un projet qui divise le pays, qui a donné lieu à de nombreuses manifestations l'année dernière entre les pro-réformes et les anti-réformes. En tout cas, l'opposition a une nouvelle fois exprimé sa volonté de prolonger, de continuer son combat pour faire en sorte que ce projet n'aille pas jusqu'à son terme et qu'il n'y ait pas de nouvelle constitution, car l'opposition est très claire. Elle est convaincue que l'objectif du chef de l'État est de modifier l'article qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, donc pour lui donner la possibilité de nouveau d'être candidat à la prochaine élection. On en parle dans des